Chapitre 4. Le cheval de M. Sénéchal était peut-être un des meilleurs de l'arrondissement, mais celui de M. de Chandoré lui était encore supérieur. En moins de 50 minutes furent franchis les 13 kilomètres qui séparent Boiscourant de Sauveterre. 50 minutes pendant lesquelles M. de Chandoré et Maître Folga n'échangèrent pas 50 mots. Lorsqu'ils arrivèrent, la cour du château de Boiscourant était silencieuse et déserte. Portes et fenêtres étaient hermétiquement closes. Sur les marches du perron était assis un jeune paysan à robuste carrure, lequel, à la vue des bourgeois, se leva et porta la main à son bonnet de laine. « Où est Antoine ?» lui demanda M. de Chandoré. « Là-haut, monsieur le baron !» Le vieux gentilhomme essaya d'ouvrir la porte. Elle résista. « Oh, monsieur, Antoine est barricadé en dedans !» dit le paysan. « Singulière idée !» fit monsieur de Chandoré en frappant du bout de sa canne. Il frappait depuis un moment de plus en plus fort quand, enfin, de l'intérieur... « Qui va là ?» s'écria la voix d'Antoine. « C'est moi, Sarpejeu, le baron de Chandoré !» Bruyamment, les barres furent retirées et le vieux valet de chambre se montra. Il était blême et défait. Au désordre de sa barbe, de ses cheveux et de ses vêtements, il était aisé de voir qu'il ne s'était pas couché. Et ce désordre était fort significatif de la part d'un homme qui, en toutes circonstances, mettait son amour-propre à afficher l'irréprochable tenue d'un gentleman anglais. M. de Chandoré en fut si frappé qu'avant tout, « Qu'avez-vous, mon brave Antoine ?» demanda-t-il. Au lieu de répondre, le fidèle serviteur attira le baron et son compagnon à l'intérieur. Et après qu'il eut refermé la porte, se croisant les bras devant eux, « J'ai, » répondit-il d'un accent étrange, « j'ai, que j'ai peur. » Le vieux gentilhomme et l'avocat se regardaient. « Ce malheureux, pensait-il, a perdu l'esprit. » Antoine comprit, car vivement, « Non, je ne suis pas fou, dit-il, quoiqu'en vérité, il se passe ici des choses telles qu'on se demande si l'on jouit bien de tout son bon sens. Si j'ai peur, ce n'est pas sans motif. » « Douteriez-vous de votre maître ? » interrogea Maître Folga. Si menaçant fut le regard que l'honnête domestique lança au questionneur, que tout de suite M. de Chandoré intervint. « Mon cher Antoine, dit-il, monsieur est un ami dévoué, un avocat venu de Paris avec Madame de Boiscourant pour défendre Jacques. Non seulement vous ne devez pas vous défier de lui, mais il faut lui dire tout ce que vous savez, tout absolument et quand même. » Le visage du digne serviteur s'éclaira. « Ah, monsieur est un avocat, s'écria-t-il, qu'il soit le bienvenu, je vais pouvoir dire tout ce que j'ai sur le cœur. » « Non, certes, je ne crois pas Monsieur Jacques coupable, il est impossible qu'il le soit, il est stupide de penser qu'il puisse l'être. Mais ce que je crois, ce dont je suis sûr, c'est qu'il y a un coup monté pour lui mettre sur le dos les horreurs du Valpinçon. » « Un coup monté ? » interrompit Maître Folga. « Par qui ? Comment ? Dans quel but ?»« Ah, c'est ce que j'ignore. Mais je ne me trompe pas et vous penseriez comme moi si vous aviez assisté à l'interrogatoire. » C'était effrayant, messieurs, c'était inouï, à ce point que moi, j'ai été comme ébloui et qu'à un moment, j'ai douté de mon maître et que je lui ai conseillé de fuir. Non, jamais on n'a entendu une chose pareille. Tout était contre lui. Chacune de ses réponses était comme un aveu. Il y a eu un crime au Valpinçon. On l'y a vu aller et en revenir par des chemins détournés. On a mis le feu. L'eau où il s'était lavé les mains était noire de charbon. On a tiré des coups de fusil. On a retrouvé une de ses cartouches près de l'endroit où M. de Claudieuse a été blessé. Même, c'est là que j'ai reconnu le coup monté. Est-ce que toutes les circonstances se seraient ajustées si exactement si elles n'eussent été d'avance prévues, calculées et arrangées? Ce pauvre M. d'Aubigeon avait les larmes aux yeux. Et ce tout-semêle de Méchiné, le greffier, lui-même était confondu. Il n'y avait à paraître content que ce galpin d'Aveline de malheur. Car c'était lui qui était le juge et qui interrogeait. Lui, l'ami de monsieur. Un homme qui, à tout moment, arrivait ici manger notre pain, dormir dans nos lits et tirer notre gibier. Il était à genoux devant monsieur, alors, pour obtenir la main de la nièce des demoiselles de la Varande. Alors c'était mon bon Jacques par-ci, mon cher Boiscourant par-là, et des protestations et des cajoleries à n'en plus finir, au point que je me disais toujours qu'un matin, je trouverais les bottes de monsieur cirées par lui. Ah, il a pris sa revanche hier matin, et il fallait voir de quel air il disait à monsieur « Nous ne sommes plus amis ». Bandit, non, nous ne sommes plus amis, et si le bon Dieu était juste, tu aurais dans le ventre les deux coups de fusil qu'on a tirés sur monsieur de Clodieuse, et tu ne les digérerais pas. » L'impatience de monsieur de Champdoré était grande. Aussi, dès qu'Antoine s'arrêta pour reprendre haleine, « Pourquoi, fit-il, n'êtes-vous pas venu me raconter cela tout de suite ?» Le vieux serviteur se permit un haussement d'épaule. « Est-ce que je le pouvais ? » répondit-il. « Quand l'interrogatoire a été fini, le galpin a mis partout des scellés, des bandes de toile fixées avec de la cire, comme on en pose sur le secrétaire des morts. Oh ! Il en a mis sur toutes les ouvertures, et deux plutôt qu'une. Il en a placé trois sur la porte extérieure. » Puis il m'a dit qu'il me constituait gardien, que j'aurais une rétribution pour cela, mais que les galères m'attendaient si quelqu'un touchait au scellé seulement du bout du doigt. Là-dessus, après avoir livré monsieur au gendarme, le galpin est parti, me laissant seul ici, hébété comme un homme qui aurait reçu un coup de marteau sur la tête. Pourtant, je serais allé trouver monsieur le baron sans une idée qui m'est venue et qui m'a donné le frisson. Grand-père Champdoré frappait du pied. « Au fait, dit-il, au fait !»« Voilà, il faut que ces messieurs sachent que dans l'interrogatoire, il a été beaucoup question du fusil Kleb que monsieur avait emporté le soir de l'incendie. Le galpin a manié ce fusil et ensuite demandé quand monsieur avait fait feu avec pour la dernière fois. Monsieur a répondu qu'il y avait 5 jours. « Vous m'entendez ? Je dis 5 jours. » Et là-dessus, mon galpin a remis le fusil à sa place, sans examiner les canons. « Eh bien, » fit maître Folga. « Eh bien, monsieur, moi, Antoine, j'avais l'avant-veille, je dis bien l'avant-veille, lavé et nettoyé à fond le club de monsieur. »« S'approche, » s'écria monsieur de Champdoré. « Comment n'avez-vous pas dit cela plus tôt, Antoine ? Si les canons sont propres, c'est la preuve irrécusable que Jacques est innocent. » Le vieux serviteur branla la tête. « C'est vrai, dit-il, seulement, les canons sont-ils propres ? Oh ! Monsieur peut s'être trompé quant à la date de son dernier coup de fusil, et alors les canons seraient encrassés, et au lieu de le sauver, ma déclaration le perdrait définitivement. Avant de parler, il faut être sûr. » « Oui, approuva maître Folga, et vous avez bien fait de vous taire, mon brave, et je ne saurais trop vous adjurer de ne parler à personne au monde de cette circonstance qui peut devenir pour la défense un argument décisif. »« Oh, je saurais tenir ma langue, monsieur. Seulement, vous devez comprendre ce que je me suis fait de mauvais sang devant ces maudits scellés qui m'empêchaient d'aller m'assurer de l'état du fusil. Oh, si j'avais osé les briser !»« Malheureux !» J'en ai eu l'idée, mais je me suis retenu. Seulement, j'ai songé, après, que cette pensée pouvait venir à d'autres. Les scélérats qui ont organisé ce complot abominable contre monsieur Jacques sont capables de tout, n'est-ce pas ? Pourquoi ne seraient-ils pas venus, de nuit, briser les scellés ? J'ai mis le métayer de garde dans le jardin, sous les fenêtres. J'ai placé son fils de faction dans la cour. Et moi, je suis resté en sentinelle devant les scellés, avec des armes sous la main. Les brigands pouvaient venir, ils auraient trouvé à qui parler. On a beau dire, les avocats valent mieux que leur réputation. Il est des grâces d'État. Le premier qui versera une larme à la représentation d'un drame bien noir sera toujours dramaturge, un homme du métier qui connaît toutes les ficelles et pour qui les coulisses n'ont plus de secret. L'avocat, tant accusé de scepticisme, est par excellence crédule et naïf. C'est sincèrement qu'il se passionne, et quand on pense qu'il joue la comédie, il est de bonne foi. Les trois quarts du temps est gagné dans son esprit la cause détestable qu'il plaide et qu'il perd devant les juges. D'heure en heure, depuis son arrivée à Sauveterre, maître Folga s'était pénétré de l'innocence de Jacques de Boiscourant, et le récit du vieil Antoine n'était pas fait pour ébranler ses convictions. Non qu'il admît l'existence d'un complot. mais il n'était pas éloigné de croire à l'audacieux calcul de quelques scélérats, profitant de circonstances connues de lui seul pour faire retomber le châtiment de son crime sur M. de Boiscourant. Mais il avait bien d'autres explications à demander, et il était difficile de les obtenir d'Antoine dans l'état de fiévreuse exaltation où il se trouvait. Car interroger un homme, si disposé qu'il soit à parler, n'est pas facile. Et si l'on n'apporte pas à cette tâche un grand sang-froid, beaucoup de soin et une méthode imperturbable, on risque fort de passer à côté du fait le plus important à recueillir. Donc, à présent moment, « Mon brave Antoine, reprit Maître Folga, je ne saurais trop louer votre conduite en toute cette affaire. Nous sommes loin d'en avoir fini. Seulement, comme je n'ai rien pris depuis hier à Paris et que j'entends sonner midi, » Monsieur de Champdoré se frappa le front. « Ah, vieil oublieux que je suis !» interrompit-il. « Comment ne vous ai-je rien offert ? Pourtant, vous m'excuserez, n'est-ce pas ? Je suis si bouleversé !»« Antoine, qu'avez-vous à nous servir ?» La métayère a des œufs, du confidois, du jambon. « Ce qui sera le plus vite prêt sera le meilleur, » dit le jeune avocat. « Avant 20 minutes, ces messieurs seront à table, » s'écria le digne serviteur. Et il s'élança dehors pendant que M. de Champdoré faisait entrer Maître Folga dans le salon. Le pauvre grand-père faisait appel à toute son énergie pour garder une contenance assurée. « Cette circonstance du fusil, » dit-il, « c'est le salut, n'est-ce pas ?»« Peut-être, » répondit le jeune avocat. Et ils gardèrent le silence, le grand-père songeant à la douleur de sa petite fille et maudissant le jour où, en ouvrant sa maison à Jacques, il avait ouverte à tant et de si cruelles angoisses, l'avocat classant dans son esprit les faits qu'il avait recueillis et préparant les questions qu'il voulait poser encore. Ils étaient l'un et l'autre si profondément enfoncés dans leurs réflexions qu'ils tressautèrent quand Antoine reparut disant « Ces messieurs sont servis ». La table avait été dressée dans la salle à manger et les deux convives y ayant pris place, l'honnête domestique se plantait debout, près d'eux, la serviette au bras, quand M. de Champdoré l'interpellant « Mettez un troisième couvert, Antoine, dit-il, et déjeunez avec nous. » « Oh, monsieur !» protesta le brave homme. « Monsieur le baron !»« Asseyez-vous, » insista M. de Champdoré. « Manger après nous, vous ferez perdre du temps, et un serviteur tel que vous fait partie de la famille. » Antoine obéit, confus, mais rouge de plaisir de l'honneur qui lui était fait, car ce n'est pas par excès de familiarité que péchait le baron de Champdoré. Et le jambon et les œufs de la métayère expédiés, « Maintenant, reprit Maître Folga, revenons à notre affaire, et vous, mon cher Antoine, du calme, et rappelez-vous que si nous n'obtenons pas une ordonnance de non-lieu, vos réponses seront les éléments de ma défense. Quelles étaient ici les habitudes de M. de Boiscourant ? Ici, monsieur, il n'en avait pour ainsi dire pas. Nous venions si rarement et pour si peu de temps. N'importe quel était son genre de vie. » Il se levait tard, il se promenait beaucoup, il chassait quelquefois, il dessinait, il lisait, car monsieur est un grand liseur et qui aime les livres autant que monsieur le marquis, son père, aime la porcelaine. Qui recevait-il? Monsieur Galpin d'Aveline, le plus souvent. Le docteur Seignebos, le curé de Bréchy, monsieur Sénéchal, monsieur Daubigeon. Comment passait-il ses soirées? Chez monsieur le baron de Champdoré, qui est ici pour le dire. Il n'avait pas d'autres relations dans le pays? Non. Vous ne lui connaissez pas quelque bon ami? Antoine eut un geste pudibond. Oh, monsieur, prononça-t-il, monsieur, ne savez-vous donc pas que monsieur est le fiancé de mademoiselle Denise? Le baron de Champdoré n'était pas né d'hier, ainsi qu'il se plaisait à le dire. Si puissamment intéressé qu'il fût, il se leva. « J'ai besoin de prendre l'air, » fit-il. Et il sortit, comprenant que sa qualité de grand-père de Denise pouvait arrêter la vérité sur les lèvres d'Antoine. « Voilà un homme d'esprit, » pensa Maître Folga. « Et tout haut ?»« Puisque nous voilà seuls, mon brave Antoine, » reprit-il, « parlons nettement. Monsieur de Boiscourant avait-il quelque maîtresse dans le pays ?» « Non, monsieur. » « N'en a-t-il jamais eu ? » ?»« Jamais. On vous dira peut-être que dans le temps, il regardait avec plaisir la Fougerouse, une grande rousse, la fille d'un meunier qui demeure tout près d'ici, et que la Matine venait au château plus souvent qu'il n'était besoin, tantôt sous un prétexte, tantôt sous un autre. Mais c'était pur enfantillage. D'ailleurs, il y a 5 ans de cela, et depuis 3, la Fougerouse est mariée à un saunier des environs de Marennes. Vous êtes sûr de ce que vous dites ? Comme de mon existence, et monsieur en serait sûr, connaissant le pays comme moi et la langue infernale des gens. Il n'y a pas de ruse qui tienne, ni de précaution. Je défie un homme de parler 3 fois à une femme sans que tout le monde le sache. À Paris, je ne dis pas. Maître Folga dressa l'oreille. « Il y a donc eu quelque chose à Paris ? » interrogea-t-il. Mais Antoine hésitait. « C'est que, balbutia-t-il, les secrets de mon maître ne sont pas les miens, et après le serment que je lui ai fait... »« De votre franchise dépend peut-être le salut de votre maître, » interrompit le jeune avocat. « Soyez sûr qu'il ne vous en voudra pas d'avoir parlé. » Quelques secondes encore, l'honnête serviteur demeura indécis, puis... « Eh bien, commença-t-il, monsieur a eu, comme on dit, une grande passion. »« Quand ?»« Ah, je l'ignore. Cela avait commencé avant mon entrée au service de monsieur. Ce que je sais, c'est que pour recevoir la personne, monsieur avait acheté à Passy, bout de la rue des Vignes, au milieu d'un immense jardin, une belle maison qu'il avait fait meubler magnifiquement. »« Ah !» C'est là un secret que ni le père de monsieur ni sa mère, comme de juste, ne connaissent. Et si je le sais, c'est que monsieur, un jour qu'il était à cette maison, est tombé dans l'escalier et s'est déboîté le pied et qu'il m'a fait venir pour le soigner. C'est probablement sous son nom qu'il a acheté, mais ce n'était pas sous son nom qu'il occupait. Il s'y faisait passer pour un Anglais, monsieur Burnett, et c'était une servante anglaise qui le servait. Et la personne ? « Ah, monsieur, non seulement je ne la connais pas, mais je ne soupçonne pas qui elle pouvait être. »« Ah, monsieur, et elle en prenait de fières précautions. »« Étant ici, pour tout dire, j'avouerai que j'ai eu la curiosité de questionner la servante anglaise. »« Elle m'a répondu qu'elle n'était pas plus avancée que moi, qu'elle savait bien qu'il venait une dame, mais que jamais elle n'avait réussi à lui voir seulement le bout du nez. » Monsieur prenait si adroitement son temps que toujours la servante était en course quand la dame arrivait et repartait. Quand elle était à la maison, monsieur et elle se servaient seuls. Et s'ils voulaient se promener dans le jardin, ils envoyaient la servante faire une commission à tous les diables, à Versailles ou à Fontainebleau, ce dont elle enrageait comme de raison. D'un mouvement machinal qui lui était familier, maître Folga tortillait une mèche de sa barbe noire. Un instant, il lui avait semblé voir poindre la femme, cette inévitable femme dont l'inspiration toujours se retrouve au fond de toutes les actions d'un homme, et voici que, décidément, elle s'évanouissait. Car c'est en vain que, d'un esprit alerte, il cherchait un rapport quelconque, possible, sinon probable, entre la mystérieuse visiteuse de la rue des Vignes et les événements dont le Valpinson venait d'être le théâtre. Il n'en découvrit aucun. Quelque peu découragé, « Enfin, mon brave Antoine, reprit-il, cette grande passion de votre maître n'existe sans doute plus ?»« Évidemment, monsieur, puisque monsieur Jacques allait épouser mademoiselle Denise. » La raison n'était peut-être pas aussi péremptoire que l'imaginait le fidèle serviteur. Pourtant, le jeune avocat ne fit aucune observation. « Et selon vous, poursuivit-il, quand cette passion aurait-elle pris fin ?» Pendant la guerre, monsieur et la dame ont dû se trouver séparés car monsieur n'est pas resté à Paris. Il commandait une compagnie de nos mobiles et même il a été blessé à leur tête, ce qui lui a valu la croix. Possède-t-il encore sa maison de la rue des Vignes ? Je le crois. Pourquoi ? Parce que monsieur et moi sommes allés passer 8 jours à Paris après les événements et qu'un soir il m'a dit « La guerre et la commune me coûtent bon ». Ma bicoque a reçu plus de 20 obus et il y a logé tour à tour des francs-tireurs, des communeux et des soldats. Les murs sont à jour et il n'y reste pas un meuble intact. Mon architecte me dit que tout compris, j'aurai pour plus de 40 000 francs de réparation. Comment de réparation ? Il comptait donc encore utiliser cette maison ? À cette époque, monsieur, le mariage de monsieur n'était pas encore arrêté. » Soit, mais cette circonstance tendait à prouver qu'il a revu à cette époque la dame mystérieuse et que la guerre n'avait pas brisé les relations. C'est possible. Et il ne vous a jamais reparlé de cette dame ?
Jamais.
Il s'arrêta. Dans le vestibule, on entendait M. de Chandoré tousser avec cette affectation d'un homme qui tient à s'annoncer. Aussitôt qu'il reparut, « Par ma foi, monsieur, lui dit Maître Folgate, lui indiquant ainsi que sa présence n'avait plus aucun inconvénient, je me disposais à aller à votre recherche, craignant que vous ne fussiez incommodé. » « Je vous remercie, répondit le vieux gentilhomme, l'air m'a tout à fait remis. » Il s'assit, et le jeune avocat, se retournant vers Antoine, « Revenons, dit-il, à monsieur de Boiscourant. Comment était-il le jour qui a précédé l'incendie ?»«
Comme tous les autres jours, monsieur. »
« Qu'a-t-il fait avant de sortir ?»«
Il a dîné, comme d'habitude, de bon appétit. Il est ensuite monté dans son appartement, où il est resté plus d'une heure. » En descendant, il tenait à la main une lettre qu'il a remise à Michel, le fils du fermier, pour la porter à Sauveterre, à Mademoiselle Chandoré. Précisément, dans cette lettre, M. de Boiscourant dit à Mademoiselle Denise qu'il est retenu loin d'elle par une affaire impérieuse.
Ah ! Avez-vous idée de ce que pouvait être cette affaire ?
Aucunement, monsieur, je vous le jure.
Cependant, voyons, ce ne peut être sans raison que M. de Boiscourant s'est privé du plaisir de passer la soirée auprès de sa fiancée.
Non, en effet.
Ce ne peut être sans but qu'au lieu de suivre la grande route, il s'est lancé à travers les marais inondés et qu'il est revenu à travers bois.
Le vieil Antoine, littéralement, s'arrachait les cheveux.
Ah, monsieur, s'écria-t-il, vous dites là précisément ce que disait M. Galpin d'Aveline.
C'est malheureusement ce que dira tout homme sensé.
Je le sais, monsieur, je ne le sais que trop. Et monsieur Jacques lui-même l'a si bien senti qu'il a essayé d'inventer un prétexte. Mais il n'a jamais menti, monsieur Jacques. Il ne sait pas mentir, et lui, qui a tant d'esprit, il n'a rien su trouver qu'un prétexte dont l'absurdité saute aux yeux. Il dit qu'il allait à Bréchy voir son marchand de bois.
Et pourquoi non ? Fit monsieur de Chandoré.
Antoine secoua la tête. « Parce que, répondit-il, le marchand de bois de Bréchy est un voleur et qu'au su et vu de tout le monde, monsieur l'a mis dehors par les épaules, voilà plus de 3 ans. C'est à Sauveterre que nous vendons nos coupes. »
Maître Folgat venait de sortir de sa poche un agenda et y notait certaines indications d'Antoine, arrêtant déjà les grandes lignes de sa défense.
« Cela fait, à 7 heures, commença-t-il, arrivons à Cocoleu. »
« Ah, le misérable !» s'écria Antoine.
« Vous le connaissez ?»«
Comment ne le connaîtrais-je pas, moi qui ai passé toute ma vie ici, à Boiscourant, au service de défunt l'oncle de monsieur ?»«
Alors, quel individu est-ce, décidément ?»«
Un idiot, monsieur, ou, comme on dit ici, un innocent qui a la danse de Saint-Guy par-dessus le marché et qui tombe du haut mal. »
Ainsi, il est de notoriété publique qu'il est complètement imbécile.
Oui, monsieur, quoique pourtant j'ai entendu des gens soutenir qu'il n'était pas si dénué de bon sens qu'on croyait et qu'il faisait, comme on dit, l'âne pour avoir du son.
Monsieur de Chandoré l'interrompit.
Sur ce sujet, dit-il, le docteur Senubos peut donner les renseignements les plus précis, ayant gardé Cocoleu chez lui près de 2 ans.
Aussi ai-je bien l'intention de voir le docteur, répondit Maître Folgat. Mais avant tout, il faudrait retrouver ce misérable idiot.
Vous avez entendu M. Sénéchal, monsieur. Il a mis la gendarmerie à sa poursuite.
Antoine se permit une grimace.
Quand les gendarmes prendront Cocoleu, déclara-t-il, c'est qu'il aura voulu se laisser prendre.
Pourquoi, s'il vous plaît ?
Parce que, messieurs, il n'y a personne comme cet innocent pour connaître les coins et les recoins du pays, les trous, les fourrés, les cachettes, et qu'avec l'habitude qu'il a eue de vivre comme un sauvage, de fruits, de racines et d'oiseaux, il peut, en cette saison, rester 3 mois sans approcher d'une maison.
Diable ! Fit Maître Folgat désappointé.
Je ne connais qu'un homme, continua le vieux serviteur, capable de dénicher Cocoleu, C'est le fils de notre métayer, Michel, ce gars que vous avez vu en bas. »
Qu'il vienne, dit monsieur de Chandoré.
Appelé, Michel ne tarda pas à paraître, et quand on lui eut expliqué ce qu'on attendait de lui,
« Il y a moyen, répondit-il, quoique certainement ce ne soit point aisé. Si Coqueleu n'a pas la raison d'un homme, il a la malice d'une bête. Enfin, on va essayer. »
Rien ne retenait plus à Boiscourant, monsieur de Chandoré, ni maître Folga. Après avoir recommandé au vieil Antoine de bien surveiller les scellés et de donner, s'il était possible, un coup d'œil au fusil de Jacques, lorsque la justice viendrait enlever les pièces à conviction, ils remontèrent en voiture. Et 5 heures sonnaient à la cathédrale de Sauveterre quand ils arrivèrent rue de la Rampe. Mademoiselle Denise attendait dans le salon. Elle se leva lorsqu'ils entrèrent, pâle, les yeux secs et brillants.
« Comment, tu es seule ? » s'écria M. de Chandoré. « On t'a laissé seule ?»«
Ne te fâche pas, grand-père. Je viens de décider Madame de Boiscourant, qui était épuisée de fatigue, à prendre avant dîner 1 heure de repos. »
Et les tantes à la Varande ?
Elles sont sorties, grand-père. Elles doivent être en ce moment chez M. Galpin d'Aveline.
Maître Folga tressauta.
Oh ! Fit-il.
Mais c'est une démarche insensée ! S'écria le vieux gentilhomme.
D'un mot, la jeune fille lui ferma la bouche.
C'est moi, dit-elle, qui l'ai voulu.